troisième émission de Rock'n'Roll Diaries, une émission qui vous est proposée et présentée par Luc. Bonjour Luc.
Bonjour Ludovic, bonjour à tous.
Alors comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien.
Alors la semaine dernière nous avons égorgé des poulets et nous les avons montrés sur scène. Aujourd'hui que se passe-t-il?
Aujourd'hui on va plonger dans le monde de l'alcool, de la drogue et du rock'n'roll forcément.
Oui, avec nos amis des Dorses. Alors avant de commencer cette émission, il faut savoir Luc que nous avons des retours sur cette émission. Rock'n'Roll Diaries est numéro 1 des téléchargements en Ossétie occidentale, premier sur la tranche minuit 1h en Roumanie et c'est l'émission la plus podcastée du Nigeria.
Ça fait plaisir.
C'est déjà pas mal. On attend les résultats de Mende. Ça devrait arriver prochainement. Ça devrait être pas mal. Alors, il faut savoir que c'est donc une émission qui attire les curieux et les convoitises. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Luc.
Absolument. Un stagiaire hein, qui a voulu venir
qui a
travailler
payé.
Avec nous et qui a payé.
Qui a payé pour participer.
Cher d'ailleurs.
Hein. Il faut savoir que si vous voulez venir participer à l'émission, vous pouvez, mais il faut payer.
Oui, on vous donnera toutes les coordonnées bancaires, etc. Pour les virements, c'est mieux.
Les virements, c'est mieux, c'est plus facile. C'est Nico qui s'en occupe. Fabien, bonjour.
Bonjour.
Alors Fabien, qui est un spécialiste des Dorses, on espère.
Tout à fait. Je ne fais que ça dans ma vie.
Voilà, parce qu'il vaut mieux avec Luc, on va galérer un peu. Menuiserie. Et un peu de LSD aussi.
Un petit peu, juste le matin.
Donc, on voulait comprendre, on va parler des Dorses et de Jim Morrison, leur chanteur charismatique.
Drogué, certes, mais charismatique.
On va commencer tout de suite en parlant des origines du groupe.
Les origines du groupe des Dorses. C'est parti, Luc.
Donc, les Dorses, en fait, ça parle de la rencontre de deux personnes, qui sont donc Jim Morrison, le chanteur, et Ray Manzarek, le clavier, on va appeler comme ça, qui se rencontrent tous les deux en 65 sur une plage californienne. Et Jim Morrison fait écouter des textes, quelques-uns de ses textes, puisqu'il écrivait déjà de la poésie, à Ray Manzarek. Et puis les deux décident de former un groupe.
Et de former un groupe qui ne s'appelle pas tout de suite les Dorses, en fait, parce qu'au début, il y a les frères de Ray qui jouent dans le groupe. Et le groupe s'appelle, il s'appelle comment d'ailleurs? Il s'appelle Rick and the Ravens. Tout simplement.
Ce qui sonne un peu moins bien.
Voilà, ça sonne un peu moins bien. Peut-être qu'ils auraient été moins connus comme ça. Et très vite, les frères de Ray Manzarek, ils se disent, Jim Morrison, il est un peu cinglé, en fait. Donc, ils se disent, on part. Voilà. Donc, il faut trouver des remplaçants.
Voilà. Et les remplaçants, en fait, c'est Manzarek qui va les trouver dans son cours de méditation transcendantale. Il va ramener un guitariste qui est plutôt tourné vers le classique et le flamenco, qui s'appelle Robbie Krieger. Et un batteur qui lui a plutôt pas mal d'influence jazz qui s'appelle John Densmore. Et ces quatre-là vont former un groupe qui va s'appeler The Doors, en référence à la fois à un livre d'Aldous Huxley qui s'appelle The Doors of Perception, dans lequel ce brave Aldous Huxley fait un petit peu un j'ai testé pour vous de toutes les drogues qu'il peut essayer, et puis il explique un peu ce que ça fait. Et c'est aussi inspiré d'un poème de William Blake, dans lequel il dit « Si les portes de la perception étaient purifiées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est infinie. »
Donc là, on est à Los Angeles. Quelle année?
65.
On est en 65, c'est l'été 65 même. Et pour l'instant, Jim Morrison, lui, il ne fait pas de musique du tout. Lui, il écrit juste des poèmes. En revanche, les autres, c'est déjà des solides musiciens quand même. Ils ont beaucoup tourné. Densmore et Krieger se connaissent déjà dans les Psychedelic Rangers. Ça aussi, ça sonne vachement bien. Mmh. Et ils ont écumé les bars, tout ça. Et là, sous une nouvelle appellation des Doors, ils vont continuer.
Ils vont continuer. Alors, ils vont commencer à écrire quelques chansons, notamment Krieger, qui est un très très bon compositeur, qui va d'ailleurs composer le premier véritable tube du groupe, qui est Light My Fire. Mais ils commencent dans les bars. Alors, ils vont commencer dans un bar qui s'appelle le London Fog, où ils font un peu des premières parties. Ça, c'est dans les années, je crois que c'est 66.
Oui, c'est toujours 65-66. Ils font la première partie de Zem, de Van Morrison. C'est pas la même famille, hein, vu qu'il est irlandais, avec notamment la chanson Gloria que tout le monde connaît et qui reprennent sur scène souvent d'ailleurs à cette époque-là.
Ouais, et puis après, ils sont repérés, ils signent Whiskey à Gogo, qui est un petit peu un club branché de Los Angeles. Dans le même temps, ils arrivent à trouver une maison de disques qui va être Elektra et qui leur prévoit un contrat de 6 albums à la base.
Ce qui est bien, vu qu'au final, ils en feront 6.
Oui,
voilà.
Mais c'est énorme quand même, 6 albums à la base pour un groupe inconnu.
Ouais, mais à cette époque-là, ça se faisait pas mal quand même. C'est vrai que dès qu'on croyait en un groupe, on se jetait vraiment. Il fallait pas que la concurrence arrive, donc on y allait, on signait 6 albums. Puis de toute façon, c'est une époque aussi où on faisait 2 albums par an, facile, plus les lives, plus les best-of.
Puis c'était la folie aussi, un truc, les années 60. Il y avait multitude de groupes aussi, donc fallait faire des albums et... C'est comme ça que ça marchait.
Et ils ont fait ça, notamment Elektra, sous les conseils d'Arthur Lee, du groupe Love, qui était aussi au West Coast à l'époque, en Californie, tout ça, un peu psychédélique, un peu des chansons de 18 minutes, un peu barré. Et il leur a conseillé donc les Doors en disant « Ah, eux, il faut les signer vraiment, tout ça ». Et Arthur Lee, il leur en voudra un peu finalement, parce que du coup, Love, on ne s'en rappelle plus trop aujourd'hui, à part les connaisseurs. Alors que les Doors, non. Et du coup, il dit « Eh ben ils m'ont tout piqué ».
Ah, Love, oui. Love qui a pourtant fait un très très bel album.
Qui passe sur nos ondes.
Forever Changes.
Exactement.
Exactement. Alors par contre, très vite, hein, on va cerner la personnalité de Jim Morrison. C'est en juillet 66, au Whiskey à Gogo. Alors Jim Morrison, il est évidemment bourré de LSD. Et sur scène, il va commencer à chanter sa chanson qui s'appelle The End. Il va se mettre en train de réciter un dialogue issu de la chanson. Je vais vous la faire en français. Hein. Donc là, le dialogue fait « Père, oui, fils, je veux te tuer. Mère, je veux te baiser toute la nuit. » Voilà.
C'est très oedipien.
Peut-être qu'il s'ennuyait aussi chez lui.
Peut-être. Non, en fait, l'histoire aussi, c'est qu'il en voulait beaucoup à son père, qui était un amiral de la Navy. Un militaire, donc bon, c'est vrai que quand on voit un peu Jim Morrison, ses cheveux longs, son côté poète, complètement drogué, tout ça, l'armée, on se doute que ça le passionne pas vraiment. Donc voilà, il avait un conflit quand même avec son père et il est parti en claquant la porte de la maison. Ça devait être quelque part en 65-66, au moment de fonder le groupe, pour plus jamais les revoir. Donc voilà. Voilà, ça explique peut-être aussi la vengeance dans la chanson.
Et peut-être l'effet de vouloir choquer pour être reconnu.
Voilà. Alors du coup, le patron, il a viré Manu Militari, il n'aura même pas laissé le temps de finir le morceau. Voilà, c'est le début de toutes les provocations, de toute la subversivité.
Pas mal ce verbe-là.
Subversivité.
C'est pas un verbe.
qui va caractériser... les Doors et surtout Morrison tout au long de sa carrière. On va peut-être se faire un petit morceau.
Absolument.
Un petit Light My Fire qui a été la première chanson qui a vraiment été un tube pour les Doors, qui a été classée numéro 1 dans les charts américains.
Sauf qu'elle a été classée numéro 1 en tant que single, donc raccourci, parce que pour les radios, c'était trop long. Et là, nous, on est gentils, donc on va passer la version longue.
Nous, on n'a pas peur.
Non.
Et voilà, 7 minutes. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
Thank you. tale is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Alors nous tenons à dire avec Fabien, il y a une petite phrase qui nous a échappé dans cette première partie de l'émission, une citation qu'a donnée Luc, et nous tenons à dire avec Fabien que nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette citation-là.
Nous ne la répéterons pas d'ailleurs pour ne pas choquer davantage les auditeurs.
Exactement, nous aurions préféré choisir « Bébé, allume-moi mon feu » ou des citations comme ça, mais bon, c'est Luc qui a choisi, on le laisse faire.
Oui, en même temps, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jim Morrison.
Et en même temps, c'est ton émission.
Oui, et puis « Bébé, allume-moi mon feu » aussi, ça a posé problème à l'époque quand même, quoi, parce que bon, il y a une petite référence un peu, on va dire, sexuelle, voire de drogue également.
Voire pyromane.
Et ils sont passés à l'émission du Ed Sullivan Show, avec Monsieur Ed Sullivan, et on leur avait demandé gentiment de changer quelques vers, voilà, voir s'ils pouvaient faire un truc plus soft.
Notamment le « Girl, we can get much higher ».
Voilà, bébé, si on pouvait aller un peu plus haut, voilà, et bah, il n'a pas voulu. Donc il a dit « oui, oui, on fait », et puis il n'a pas fait.
Et non, et du coup, ça n'a pas plu à Ed Sullivan qui ne les a plus jamais invités à la télé.
Eh bien, tant pis pour lui.
Tant pis pour lui.
Nous, on les invite.
Ouais, en attendant, ça n'a pas empêché les Doors d'avoir du succès. Et notamment après ce premier morceau qui est sorti donc aux alentours de l'été 66, si je ne me trompe pas, ils ont sorti leur premier album qui s'appelait The Doors, sinon, tout simplement, hein, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, alors qui déjà contient un peu de la philosophie de ce que va être le groupe pendant sa finalement courte existence avec Morrison aux commandes, 54 mois en tout, hein, je crois, officiellement. Donc c'est déjà une combinaison de plusieurs styles. Il y a le style de Manzarek avec son orgue Vox Continental, les tonalités un peu jazz à la batterie de Densmore. Et puis tout ce côté un peu flamenco, guitare classique de Krieger. Et vous allez peut-être me dire qu'il manque quelque chose dans cet orchestre.
Des danseuses.
Oui, je pensais plutôt à un bassiste.
Il y a un bassiste, c'est vrai. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il y en avait un et qu'il est parti en même temps que les frères de Ray et tous les musiciens qui ne voulaient pas vraiment jouer avec Jim. Et du coup, ben Ray, il est plutôt bon au clavier, donc il se dit, bah tiens, si je faisais la basse en même temps, j'ai une main de libre, tout ça, je peux le faire. Après tout, hop, main gauche, un petit clavier Fender Bass. Et voilà, du coup, il fait les deux en même temps. Mais en fait, c'est plus pratique sur scène parce qu'ils sont que quatre. En studio, quand même, ils font appel à un vrai bassiste de temps en temps, quoi.
Enfin, ils en font appel à beaucoup de vrais bassistes parce qu'ils en ont, quand même usé pas mal. Tout au long de la carrière.
Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment inventé un style avec cet apport du jazz, du flamenco, ça se faisait pas avant. Il faut peut-être remettre dans son contexte et préciser que c'est un moment aussi où les États-Unis subissent des vagues de rock anglais. Et c'est un peu le groupe américain qui arrive à ressortir dans cette Amérique de ces années 60-70. C'est le seul groupe, presque, on pourrait dire.
Oh, quand même pas le seul groupe. Après, c'était un succès fulgurant, mais aux États-Unis, il y avait quand même avant. C'est vrai que c'était un peu avant les Beach Boys qui fonctionnaient plutôt bien. Et puis ils ont toute la vague West Coast avec Jefferson Airplane, tout un tas de groupes qui ici sont pas forcément très connus, mais qui aux États-Unis ont vraiment énormément marché, voilà, et dont Woodstock est un peu le symbole.
Ce qui est avec les Doors, c'est qu'effectivement, c'est peut-être ceux qui ont eu une renommée mondiale plus rapidement que des groupes comme effectivement Jefferson. Voilà, ou les Beach Boys, qui ont mis peut-être un peu plus de temps à traverser l'Atlantique. Une chose est sûre, c'est que pour beaucoup, le charisme quasi chamanique de Jim Morrison y est aussi pour beaucoup. Il faut savoir aussi que politiquement, on est dans une époque qui est la fin des années 60, qui est un peu troublée aux États-Unis. On est en pleine guerre du Vietnam, c'est vraiment l'époque où il y a beaucoup de manifestations contre la guerre du Vietnam. Il va y avoir l'assassinat de Martin Luther King dans toute cette période-là. La mort de Jimi Hendrix, celle de Janis Joplin.
L'assassinat de
Bobby Kennedy, l'élection de Richard Nixon.
C'est une période triste.
C'est pas la période la plus gaie, c'est un peu la fin du... Du power flower, un peu du rêve hippie qui a marqué vraiment les années 60. Pour revenir à l'album The Doors, il commence par Break On Through To The Other Side, qui annonce bien la couleur, hein, puisque c'est vraiment un manifeste qui appelle à se dépasser, à dépasser les apparences, à passer de l'autre côté, ce qui veut dire en utilisant un peu de drogue, par
encore
exemple.
Encore des substances illicites.
Décidément.
Ensuite, il y a un nouvel album en 67, Strange Day.
Voilà, quelques mois plus tard, en octobre, vu qu'à l'époque, on faisait comme ça, on enregistrait et on jouait.
Alors, Strange Day, il est encore plus déconcertant que le premier album, que The Doors. C'est vraiment un album qui exprime par moments une sensation de malaise, une perte d'identité un peu, de solitude, avec des chansons qui sont plus romantiques, mais aussi un peu plus agressives. Parallèlement à ça, c'est vraiment ces deux albums qui vont forger l'identité des Doors, et notamment auprès du public, et des jeunes Américains qui de plus en plus vont se reconnaître dans ce message délivré par Jim Morrison et sa troupe, et qui vont s'intégrer dans ce mouvement des protest songs qui a eu aussi sa période de gloire pendant ses fin des années 60.
Oui, et puis ils gardent l'identité du premier album, quand même, notamment l'orgue, la basse jouée au clavier, tout ça. Mais ils évoluent un peu, et on le voit sur la pochette notamment. La première, c'est tout simplement, ça s'appelle The Doors, et il y a leur tête dessus, simple, efficace. La deuxième, eh ben, il n'y a plus rien marqué. Tu en vois The Doors en tout petit sur une affiche au loin avec Strange Days marqué. Et puis c'est des sortes une sorte de fanfare un peu triste, bizarroïde, qui fait peur, avec un gros monsieur qui a une sorte de tutu en panthère blanche et noire, un nain, des hommes avec des masques qui jonglent. Enfin, c'est un peu inquiétant. Et c'est à l'image de la musique qu'il y a dedans, c'est-à-dire ils ont gardé la même formule, mais ils ont ajouté un peu d'instruments en studio qui font flipper davantage. Voilà, donc c'est un peu inquiétant. Alors si vous voulez, pour vous donner un peu l'ordre d'idées que ça représente dans les textes, au milieu de l'album, il se permet même, Jim Morrison, de réciter un poème, carrément, un de ses poèmes comme ça. Alors ils mettent de la musique en fond pour faire flipper davantage, mais en français ça donne ça quand même. Ça s'appelle « Aux latitudes du cheval ». Lorsque la mer tranquille conspire une armure et que morose et avortée, ses courants engendrent des monstres minuscules, les voiles connaissent la mort, instant de malaise, et le premier animal est largué par-dessus bord, ses pattes pompant furieusement leur raide galop vert, et les têtes se dressent brusquement, équilibre, délicate, pose, consentement, dans l'agonie du naseau muet soigneusement purgé, puis scellé. Alors, si quelqu'un comprend, il peut contacter 48FM.
Ne prenez pas la route, par contre.
Oui.
Voilà. Alors, c'est aussi la période où Morrison va devenir un maître dans l'art de manipuler ses foules, et notamment ceux qui viennent au concert. Il a cette faculté à déchaîner des passions et à les calmer de la même manière avec quelques mots. Et d'ailleurs, en décembre 67, à Chicago, il connaît sa première arrestation sur scène pour trouble à l'ordre public. Voilà, les flics qui faisaient le service d'ordre l'arrêtent directement, ils lui laissent même pas le temps de finir le concert. Et voilà, ça c'est encore un des faits d'armes de Jim Morrison. Il faut se rappeler qu'au début, Jim Morrison, il aimait tellement pas monter sur scène que les premiers concerts, il les faisait dos au public en regardant ses musiciens. Donc,
Il me semble que le concert, c'était à New Haven en 67. Oui. Mais ça a peu d'importance parce qu'à Chicago, de toute façon, il va faire encore pire quelques temps plus tard. Donc.
Non, mais il faut être sûr, Fabien. Là, on
n'est
pas
c'était
dans...
à New Haven, j'y étais, je me rappelle. Ah, c'est quand même, c'est marquant.
Oui, c'est vrai. Moi, j'y étais, mais j'étais avec des flics.
Ah oui, ouais. Bon, c'était en bleu alors c'était... En bleu, d'accord.
C'est ça. On va se faire un petit deuxième, Moonlight Drive, qui est en fait...
La première chanson qu'a entendu Ray Manzarek sur la plage de Venice Beach, quand il a rencontré Jim Morrison et qui lui a dit « Oui, je fais un peu de poésie, tout ça, je vais te chanter quelque chose ». Il lui a chanté et donc Ray Manzarek a été subjugué comme nous à cet instant.
Et après ce morceau... On aura droit à une citation de Luc. Citation, Luc, on va peut-être poursuivre cette histoire. Donc, il se fait arrêter sur scène, mais pourquoi exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé en amont ?
Alors, en fait, ce qui se passe dans ce fameux concert de décembre 67 à New Haven, c'est que Jim est en charmante compagnie dans les toilettes, en coulisses, avec une jeune fille qui n'est pas nécessairement sa fiancée habituelle.
Le cochon.
C'est l'amour libre, la fin des années 60.
Ouais, c'est ça. C'est vrai. Flower power. Et donc, les policiers arrivent et interrompent un petit peu ces ébats. Voilà, donc Jim monte sur scène et très, très ulcéré par ce qui vient de se passer. Et donc cette fameuse citation, c'est « Je croyais que leur devise était protéger et servir à ces fascistes ». Voilà, ce qui n'a pas facilité les relations entre Jim Morrison et la police.
En même temps qu'on est en 12 compagnies dans les toilettes,
bah, c'est vrai.
C'est un peu emmerdant de retrouver quelqu'un en uniforme qui tire la personne de là.
Ouais, il faisait rien de mal, hein, dans l'absolu.
Oui, puis il n'avait pas de mal à trouver, je pense, d'autres filles dans d'autres toilettes, d'autres bars.
Oui, ça devait être un habituel.
Probablement rattrapé après.
Oui, très certainement.
Ça ne devait pas faciliter sa tâche, en revanche, pour rencontrer des organisateurs de concerts, vu qu'à cette époque, c'était un peu, pas quotidien, mais presque, ce genre d'embrouille. Et il lui arrivait plein de choses, évidemment. On verra tout à l'heure qu'il a même été condamné pour ça. Mais ça lui arrivait surtout d'être ivre-mort sur scène. C'est-à-dire, ouais. Il commençait un morceau et puis oh tiens, je m'écroule, hop, petit coma éthylique, etc., etc. Ouais. Et Raymond Zarek, qui fait déjà quand même la basse et le clavier, ben il prend le chant aussi, voilà, dans la foulée. Donc oui. C'était des concerts un peu particuliers.
Je pense que c'était pas facile à l'époque d'être Undoors. Quand Jim Morrison avait ses excès, mais c'est vrai que tomber en coma éthylique en plein milieu d'un concert, bah, ça s'est perdu.
Ouais, les morceaux de 8 minutes devaient en faire 16 sans parole, pour faire pas ouais. Le temps qu'il se réveille.
Ouais, c'est souvent arrivé hein, qu'ils finissent les concerts alors que Morrison était parti à faire de l'instrumental ou avec Manzarek au chant. Et en fait, ça a quand même vachement déstabilisé le groupe. Ses problèmes de drogue, d'alcool, parce qu'il y avait la drogue aussi, il était quand même assez accro, notamment au LSD. Et ça devient quand même assez chaotique, notamment au niveau des concerts, en fonction de son état d'ébriété. Ça devient très compliqué pour les Doors de faire des concerts cohérents, qui pourtant attirent toujours autant de monde.
Peut-être que le public venait rechercher ça aussi, c'était un show.
Oui, et puis lui, il savait très bien les matchs qu'il renvoyait aussi, donc il y avait de la provocation dedans, il en jouait, c'était un peu, il se regardait faire la scène, et puis voilà, et puis il attendait les réactions, il provoquait le public, il insultait, il leur disait qu'il valait rien, ce genre de choses. Voilà, et les autres, ben, généralement, ils restaient stoïques derrière, tout roulait comme ça, hop, boogie. Heureusement qu'ils avaient une expérience un peu jazzman, tout ça, parce que ça leur permettait de tourner pendant 20-30 minutes sans parole, donc... ça aide dans ces cas-là.
Ouais, puis il y avait l'inverse aussi. Il y avait des grands monologues de Morrison, notamment quand il se lançait dans sa fameuse célébration du Roi Lézard, qui devait d'ailleurs faire une face complète de l'album Waiting for the Sun, qui est le troisième album, je crois, des Doors. Il avait choisi que ce poème-là ferait toute la face B de l'album.
Et les trois autres n'étaient pas vraiment d'accord, les producteurs non plus, personne. Du coup, ils ont gardé juste quelques bouts, je crois. Ils ont intégré plus ou moins une chanson dans l'album. En revanche, sur scène, il fallait se le farcir, quoi.
Manque de chance.
C'est pas toujours facile. Ce qui fait que l'enregistrement de Waiting for the Sun est très compliqué, hein, parce que les relations entre les quatre membres, enfin surtout entre les trois et Morrison. Sont très compliqués. Ensuite, ça va de pire en pire par rapport aux addictions de Morrison. Par exemple, pour The Soft Parade, il écrit que 4 chansons sur tout l'album, tout le reste étant écrit par Robbie Krieger.
C'est une nouveauté, ça, dans l'histoire des Doors.
Alors, pas complètement, parce que Jim Morrison a toujours écrit les paroles, mais il n'a jamais composé la musique. A priori, c'était plutôt collectif. Mais quand même, Krieger avait une grosse part dans la composition, vu qu'on l'a dit tout à l'heure, il a composé Light My Fire, mais aussi Love Me Two Times ou plein d'autres tubes des débuts. Sauf que là, du coup, il se met à écrire aussi pour boucher les trous, tout simplement. Il faut faire un album. Jim Morrison, il n'est pas en état. Donc, il écrit également. Et voilà, Jim, il vient pour chanter quand il vient.
Alors, la nouveauté, peut-être, c'est que jusque-là, toutes les chansons étaient signées The Doors. Et là, on commence à avoir des chansons qui sont signées Morrison ou Krieger. Voilà, c'est peut-être une fracture, pas grand-chose, mais une fracture déjà au sein du groupe. Il y a une grosse brouille aussi à un moment de l'enregistrement de cet album. Morrison s'absente, disparaît une semaine ou deux, et entre-temps, les trois autres membres du groupe autorisent Buick, la marque de voiture, à utiliser Light My Fire pour une pub, et ce qui met Morrison, quand il rentre, le met totalement hors de lui, complètement hors de lui, il annule ce contrat, du coup, et Buick ne se servira jamais de Light My Fire pour sa pub. Comme finalement aucune chanson des Doors n'ont été utilisées pour faire de la publicité, y compris après la mort de Morrison, puisque Cadillac et Apple ont essayé et se sont heurtés au refus de
John Densmore essentiellement, parce que les autres finalement des années après ils voulaient bien, mais le batteur qui est celui qui préserve l'héritage, ouais, pour qu'il reste un peu figé et pas qu'on plante des banderilles dedans, il a toujours dit non, donc voilà. Mais face à toute cette haine, on va peut-être passer une chanson d'amour alors, tout simplement, qui est dans Morrison Hotel, dans Waiting for the Sun, pardon, troisième album,
la première chanson,
voilà, qui s'appelle Bonjour, je t'aime.
Hello, I love you.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song.
Hello, I love you, tiré de l'album Waiting for the Sun.
Waiting for the Sun, le troisième album des Doors, suivi par The Soft Parade, dont on le disait tout à l'heure, où Morrison écrit quasiment rien. Je crois que c'est l'album le plus compliqué à enregistrer pour le groupe. Il me semble que ça met 11 mois d'enregistrement de production.
Ce qui est énorme pour les Doors à l'époque.
Ce qui est énorme pour l'époque tout court d'ailleurs, ouais. Mais ils ajoutent des quantités de cuivre, tout ça, il y a un orchestre, enfin c'est très très compliqué.
Et puis il fallait des centaines de prises pour vraiment faire arriver au résultat parfait selon l'ingénieur du son, selon le producteur.
Que selon le producteur d'ailleurs, parce que du coup les critiques, le public, tout ça, ils sont un peu désorientés, quoi, parce qu'entendre Jim Morrison essayer de faire du Sinatra sur des plages de cuivre, voilà, c'est pas trop les Doors. On écoutera un morceau tout à l'heure, mais bon, c'est pas tout à fait ça, quoi.
C'est comme faire du heavy metal à Christophe Maé, quoi.
On devrait essayer.
Mais peut-être ça serait mieux, ouais.
Ah oui. Ou pas.
On devrait. Ou pas.
pas. Mais il faut quand même que les Doors restent les Doors. Donc il y a le fameux concert de Miami qui arrive le 1er mars 69, qui va rester un grand moment dans l'histoire de la musique et du fait divers. Évidemment, c'est un concert à Miami. Évidemment, Morrison est dans un triste état. Il a plus d'une heure de retard. Il a raté deux avions. Il est ivre mort. Il est quasiment incapable de chanter. Il est incapable de bouger. C'est à la limite si les autres le portent pas sur scène. Et encore une fois, il va, comme il sait très bien le faire, invectiver la foule parce qu'il y a des policiers encore tout autour de la scène. Il y avait beaucoup de policiers à l'époque autour des concerts des Stones, des Doors. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs.
Non. Peut-être parce que c'est des amateurs de musique, tout simplement.
Très certainement.
Les Bleus aiment le blues, non ?
Ouais, c'est vrai.
Ouais. C'est possible.
C'est possible. Et une fois, voilà, Morrison va refaire son show, et là, il va promettre à tout le monde qu'il va se montrer tout nu. Ce qui n'est pas vraiment pour plaire aux forces de l'ordre locales.
Non, bizarrement. Alors, on ne sait pas pourquoi encore, mais toujours est-il qu'il commence par simuler une fellation sur la guitare de Robbie Krieger, qui lui continue de jouer. Hein. Enfin, après, il était perché aussi, hein, faut dire.
Sa guitare était d'accord, en plus.
Voilà, oui. Et puis, voilà. Là, jusqu'ici, le public réagit, mais réagit en disant qu'il est plutôt content. Hein. Généralement, oh, scandale, on est content. Et il va encore plus loin, Luc, après.
Il va plus loin, il commence à mimer qu'il va se déshabiller. Et là, bah, ça ne plaît pas du tout. Donc du coup, émeute, brouhaha, tout le monde monte sur scène, la police, etc., etc. Le concert se finit tant bien que mal.
Plutôt plus mal que bien.
Plutôt mal que bien. Et là, par contre, si jusqu'à présent, Jim Morrison n'avait pas eu trop de soucis au niveau de la justice vis-à-vis de ses incartades sur scène, là, par contre, ça va très, très mal se passer. Les Doors partent en Jamaïque se ressourcer. Il y a pire. Hein.
Et peut-être chercher un peu de drogue aussi. Mais... Oh. C'est voilà, une rumeur.
Un petit week-end Thalasso.
Oui, je crois que c'est ça.
Ils aimaient le reggae.
Ouais. Thalasso à Kingston, c'est un bon spot.
Plongée, reggae.
Scrabble.
Scrabbooking.
Scrabbooking.
Scrabbooking. Et macramé aussi.
Et tournoi de Manille au 17.
Ouais. Ouais.
C'est un bon week-end, hein. Bon petit séjour. La justice américaine, elle n'est pas de cet avis-là. Donc, Morrison est convoqué, quatre chefs d'accusation, comportement indécent, nudité publique, outrage aux bonnes mœurs, et Dieu sait si bonnes mœurs sont importantes aux États-Unis, et ivresse publique.
Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Bah, le procès, c'est comme toujours en affaire de justice, ça met du temps à se mettre en place, tout ça. Il sera jugé finalement quelque chose comme un an après, en 70, et condamné, c'est pas une grande surprise, un mois plus tard, et condamné seulement pour deux chefs d'accusation. Alors, bizarrement, il laisse tomber l'ivresse. Alors voilà, au niveau de l'ivresse, il considère que ça, c'est pas des faits avérés. Voilà, donc non, M. Morrison n'était pas ivre, tout va bien. En revanche, la nudité, ça, ils disent oui, et encore aujourd'hui, on se pose la question, parce que apparemment, il y avait quand même des centaines de photographes dans la salle, des centaines de témoins, les musiciens eux-mêmes étaient témoins, et... Personne ne dit avoir vu le kiki de Jim. Donc, kiki ou pas kiki, la justice a tranché.
La justice a dit kiki.
Voilà,
on dit kiki.
Et le verdict est de quand même 8 mois de prison ferme. Donc, c'est quand même assez lourd, surtout pour une rockstar. Et donc, l'avantage quand on est rockstar, c'est qu'on a de l'argent. Donc, caution, donc libre.
Et appel. On verra plus tard que finalement l'appel ne sera jamais jugé puisqu'il n'y a plus de Jim Morrison, donc forcément.
La mort l'aura jugé.
Exactement. Entre le concert de Miami et le jugement, il y a un nouvel album qui s'appelle Morrison Hotel. Contrairement à The Soft Parade, le groupe a repris du poil de la bête. Et renoue un peu avec la tradition un peu rock.
Pourrait-on écouter un morceau de The Soft Parade avant de passer à Morrison Hotel?
Bien sûr, on peut écouter.
Des cuivres, on veut des cuivres, donnez-nous des cuivres.
On veut des cuivres.
On va écouter Tell All the People.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, mais c'est trop gentil, Tell All the People, parce que là on se dit qu'en plein dans Miami, on a envie de faire quoi à Jim Morrison ? On a envie de le toucher.
C'est vrai.
Du coup, tu as envie de le toucher, s'il te plaît ?
Moi non, mais bon, c'est ce qu'il nous demande. Il nous dit « touche-moi ».
Donc pour cette chanson de The Soft Parade, on est d'accord tous les trois, c'est un album que l'on n'aime pas vraiment.
Non, un peu médiocre, un peu pas nécessaire, un peu ampoulé, un peu laborieux, un peu chantilly.
Un peu pas dans l'esprit des Doors finalement.
Mais ils vont vite se retrouver donc, comme on avait dit tout à l'heure, avec Morrison Hotel.
Exactement, qui part en février 70. Alors là ça va beaucoup mieux. Le groupe retrouve un peu sa verve et sa musique originale, aussi militant sur les engagements typiques du mouvement hippie. Musicalement, il renoue avec cette tradition rock un peu plus classique qui a fait son succès les années précédentes. Sans abandonner hein, les compositions élaborées par rapport à leurs paroles, mais il parle aussi de l'amour, de choses comme ça. Et aussi toujours cette espèce de sentiment de petit peu de malaise qui domine dans Strange Day par exemple, l'album qui était paru un peu plus tôt. Avec des morceaux, peut-être Fabien, tu vas nous lire un petit peu de...
Oui, on va le passer après, mais en français c'est toujours beaucoup plus savoureux évidemment que la langue de Shakespeare. Donc Peace Frog, la grenouille de la paix, Donc sous ce titre-là, on se dit chanson peut-être pacifiste, voilà, contre le Vietnam, etc. Mais en fait, c'est une chanson où Jim Morrison se met en scène, où il parle de tous ces problèmes qu'il a eu avec la police lors des concerts. Il dit par exemple, il y a du sang dans les rues, j'en ai jusqu'aux chevilles, il y a du sang dans les rues, j'en ai jusqu'aux genoux, du sang dans les rues de la ville de Chicago, donc Chicago, hein, on se rappelle. Il parle du sang dans les rues de la ville de New Haven, comme par hasard. Il parle du sang dans les rues aussi près des palmiers de Venise. Alors Venise, c'est Venice Beach en fait, tout simplement, donc à Los Angeles. Voilà, donc ça reste le malaise qui domine malgré tout, malgré des titres enjoués.
Et il faut préciser aussi peut-être les conditions de cet album avec leur producteur Rothschild qui les a laissés tomber, qui leur a dit ben voilà, c'est fini pour vous, je ne pourrais pas ressortir d'album. Et ils se sont enfermés pour enregistrer en live comme ils faisaient auparavant, en très peu de temps, et qui donne un très bon album au final.
Oui, un très bon album, très blues, très, très rock, qui avait une pochette qui est pas formidable, qui est culte pourtant, mais où on voit un Jim Morrison qui commence à être un peu gras, on peut le dire. Et c'est un album qui, il faut s'en rappeler, a deux noms en fait. Ça s'appelle Morrison Hotel Hard Rock Café, parce que derrière, il y a Hard Rock Café. Et le vrai nom, c'est le nom double. Mais bon, les gens ont retenu Morrison Hotel, évidemment, parce que Jim.
Alors nous allons écouter le morceau dont tu viens nous expliquer les paroles, La grenouille de la paix.
Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven, blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer, bloody red sun of fantastic LA. Blood in the streets, it's up to my ankles. Blood in the streets, it's up to my knee. Blood in the streets, the town of Chicago. Blood on the rise is following me.
Voilà donc pour une chanson de cet album, Morrison Hotel.
Cinquième et avant-dernier album du groupe. Le sixième, c'est LA Woman, qui, pareil, un peu comme Morrison Hotel, va être enregistré en 10 jours. 10 jours TTC, tout compris, dans un petit studio, deux prises par chanson maximum. Ça rappelle vraiment le premier album aussi, dans la brièveté de l'enregistrement.
Il avait mis une semaine, le premier album, à être enregistré. Bon, c'est kiff-kiff. Hein.
C'est plus rapide sans les cuivres.
Il y avait plus de pistes là quand même. Les studios avaient évolué déjà, il y a plus de matériel et tout, mais ils voulaient retrouver quand même une authenticité blues, comme beaucoup de groupes à l'époque d'ailleurs. C'est un peu le retour du blues rock au début des années 70, donc finalement ils s'inscrivent dans la mode.
Voilà, et ils retrouvent donc effectivement ce côté blues, ce côté rock, et quelques-uns des meilleurs textes de Jim Morrison. La critique finalement va juger que LA Woman c'est le meilleur album du groupe.
Est-ce que c'est votre avis aussi à tous les deux?
Moi je suis partagé parce que c'est peut-être le meilleur album, mais c'est pas le plus représentatif parce qu'il est quand même un peu à part. Il est très 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 blues et il y a moins du coup l'orgue emblématique de Light My Fire, tout ça. Donc même la voix est beaucoup plus bluesman. Du Bayou, et donc voilà, c'est le meilleur album, mais peut-être pas des Doors.
Ouais, moi j'ai une petite préférence pour le premier quand même.
Oui, on peut être d'accord là-dessus. De toute façon, les auditeurs peuvent voter hein, oui. S'ils sont pas d'accord.
Mais à la fin des LA Woman, par contre, on est sûr d'une chose, c'est que Jim Morrison, lui, il a pris une décision, c'est qu'il va partir. Il va choisir d'abandonner sa carrière de chanteur de rock pour se consacrer à la réalisation de films, puisque ça a été sa formation initiale. Hein.
Ouais, bah ça, on n'en a pas parlé.
Il a étudié le cinéma à l'Université de Californie à Los Angeles, à UCLA. Donc lui, il décide de s'éloigner de la musique pour faire le cinéma et continuer tout son travail de poésie, de poète. Il est un petit peu encouragé dans tout ça par sa fiancée de l'époque.
Sa fiancée officielle, en tout cas. Pamela Courson.
Exactement. Avec qui il décide de partir à Paris.
La ville lumière, voilà, pour lui, ça fait rêver. C'est la poésie, tout ça. Il peut rencontrer des idoles qui ont écrit des poèmes qui ne sont pas forcément très connus. Et puis vivre une vie de bohème un petit peu, aller de boîte en boîte, tout ça. Et continuer de faire de la poésie, surtout sans musique. Parce que juste avant de partir à Paris, il avait décidé, le jour de son 27e anniversaire, d'enregistrer un peu toute la poésie qu'il avait écrite. Donc il avait couché sur bande, comme ça il avait demandé à un technicien, ça avait pris des heures, il avait tout enregistré. Alors est-ce qu'il sentait venir la fin? Il y a des thèses qui le disent. Hein,
il y a des thèses. Il paraît que le jour où Janis Joplin est décédée, je crois, à l'âge de 27 ans, il aurait confié à un proche « Je suis le prochain ».
Voilà. Il y avait eu Brian Jones, il y avait eu Jimi Hendrix, il y avait eu Janis Joplin, et voilà, il disait à tout le monde « Vous avez devant vous le prochain ». Il ne disait pas du club des 27, parce que ce n'était pas encore popularisé, mais c'est un peu le cas.
Mais c'est un peu le cas. Et pour revenir à la poésie, il faut dire que très très tôt aussi, Morrison, qui était intellectuellement, qui avait un QI de 149, donc qui était quand même intellectuellement assez costaud, lisait de la poésie, et pas que du facile, puisqu'au collège, au lycée, il avait déjà lu Nietzsche et compagnie.
Oui, mais puis des trucs pas très joyeux, hein. De toute façon, voilà, Nietzsche, c'est pas joyeux, puis après, sinon, il aimait tous les grands classiques comme Kerouac, Rimbaud, Joyce, des trucs très variés, mais pas forcément très heureux.
Est-ce qu'à l'époque de LA Woman, les Doors continuent à tourner?
Eh bien, faute de Jim Morrison, eux, ils attendent un peu son retour. En fait, ils mixent l'album pendant qu'il est déjà à Paris. Donc lui, il a enregistré les voix, tout ça. Il s'en va à Paris et eux, ils font le mixage final. Ils l'appellent vaguement de temps en temps, comme ça, pour savoir si ça va. Ils lui disent l'album, il se vend bien. Il dit qu'il est content. Mais il est un peu retiré, quoi. Il a la barbe qui a poussé, il est là incognito. Il vit à Paris dans le 4e, pépère.
Voilà, mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que un soir.
Ah oui, un soir du 3 juillet, enfin le soir du 2 juillet plutôt, hein, parce qu'il est mort dans la nuit du 2 au 3. Il meurt tout simplement. Alors il meurt comment? On le sait pas beaucoup, parce que tout simplement la thèse officielle, c'est que on l'a retrouvé mort dans sa baignoire.
Donc, décidément.
Voilà. Alors, mort de quoi dans sa baignoire? Il s'est pas noyé, a priori. Hein.
Donc, il s'est pas électrocuté non plus.
Voilà. Vu ce qu'il s'envoyait, on peut légitimement penser que l'acide, l'alcool, ce genre de choses, ça a pu aider. Mais là aussi, il y a plusieurs thèses. Il y en a qui disent qu'ils l'ont vu dans une boîte parisienne un peu avant. Où il était déjà mort, tout simplement. Il était mort dans les toilettes d'une overdose, et puis pour pas faire de scandale, en gros, ils l'ont transporté jusque chez lui, ils l'ont mis dans la baignoire, et puis basta.
Comme Whitney.
Comme Whitney, exactement. Et Pamela Courson, elle rentre à l'appart et bon, elle aussi, elle prenait de la drogue. Alors, selon son témoignage, elle a juste vu dans la baignoire et puis elle est allée se coucher. Voilà, et puis, puis vers 4, 5, 6 heures du matin, quelque chose comme ça, elle s'est dit, tiens, il ne parle pas beaucoup. Je vais aller voir s'il va bien.
Il doit être vraiment propre.
Voilà, il doit être très, très propre et très mort. Et très mort, mais du coup, on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie. Donc, on imagine que c'est une overdose. Où, quand, comment, on ne sait pas. À tel point que les autres membres des Doors seront prévenus que bien plus tard, parce qu'en fait, il est mort le 3 au petit matin. Donc, et je crois que c'est le 5 ou le 6 seulement qu'on les avertit, comme ça ils n'ont pas de nouvelles, ils étaient habitués, hein. Il y avait plein de rumeurs sur sa mort, mais là ils appellent parce qu'il y a des rumeurs un peu persistantes, ils se disent il est peut-être vraiment mort, et effectivement il est mort, donc il y a l'enterrement qui a lieu. Le...
Il est quasiment enterré puisqu'il est enterré au cimetière du Père Lachaise, à Paris, le 7 exactement.
Alors comment ça se fait que son corps n'ait pas été rapatrié sur Los Angeles?
Son père voulait le rapatrier malgré la brouille quand même, voilà, il voulait sur le sol américain, c'est important, le rapatrier, mais ça n'a pas été fait, ça a été fait un peu à la va-vite, voilà. Ils n'étaient même pas sûrs, à la limite on peut estimer que les médecins ou les pompiers ou les policiers qui l'ont trouvé n'ont pas reconnu Jim Morrison, vu l'état dans lequel il était. Et donc voilà, ça s'est fini comme ça. Mais du coup, comme il y a un mystère, il y a toutes les rumeurs après sur le fait que non, c'est une mise en scène. Il est encore en vie.
Un petit peu comme Elvis Presley, des gens qui l'ont vu vivant.
Comme Michael. Ou le FBI l'a abattu, parce qu'il était sur la liste des gens subversifs. Donc, on lui cale une overdose et puis hop, débarrassé.
Peut-être Chirac aussi, ou Delanoë.
Aussi, ou les deux.
Ou les deux.
Il faut savoir que la tombe de Jim Morrison au Père Lachaise est la seule équipée d'un système de vidéosurveillance. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui défilent et qui laissent moult présents, y compris des bouteilles de whisky. Oui.
Qui mangent dessus, qui fument dessus, qui font d'autres choses dessus, que la morale nous empêche de dire ici. On l'a bien vu tout à l'heure, la morale, c'est important.
C'est pour ça qu'ils ont mis des caméras de vidéosurveillance, en fait.
Pour se rincer l'œil.
Et donc, pour finir avec la thèse de la mort, un peu, enfin, de la sortie de scène un peu préparée, dans l'album Elle et Woman, il y a une chanson qui s'appelle Hyacinth House, dans laquelle il y a un vers qui a interpellé plein de fans et qui interpelle toujours des années après. Et il dit tout simplement « Je vois que la salle de bain est dégagée. » Je vois que la salle de bain est dégagée, on le retrouve dans sa baignoire. Hop.
Étonnant.
Étonnant.
Hasard.
Hasard, on ne sait pas.
Thierry Hasard.
On va peut-être se faire un petit morceau de LA Woman.
Mais avec plaisir.
Alors, on se fait un petit Lover Madly.
Voilà, Lover Madly, dernier album du vivant de Jim. Don't you love her madly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her ways? Tell me what you say. Seven horses seem to be on the mark.
Voilà pour ce morceau donc de l'album Elle est Woman. On va peut-être clôturer cette émission.
Oui, parler un petit peu de ce que sont devenus les Doors après la mort de Jim Morrison. Donc on l'a dit tout à l'heure, les Doors, la carrière officielle des Doors, c'est 54 mois, quelques millions d'albums vendus. De disques d'or. Aujourd'hui encore, je crois que c'est 1 million d'albums vendus par an pour les Doors.
Ils ressortent souvent à bas prix, hein, faut dire, dans les grandes enseignes. Donc les gens les rachètent.
Même des fois, ils les rachètent trois fois.
Les gens sont bizarres quand même.
Ouais, people are strange. Mais les autres membres du groupe, malgré la mort de Jim Morrison, vont tenter de continuer. Ils vont sortir
deux albums sous le nom The Doors.
Sous le nom The Doors. Qui n'ont pas l'aura qu'avaient eu les précédents.
Les textes ne sont pas les mêmes, forcément, puis la voix non plus, et puis l'envie non plus, et puis le public, il n'est pas là non plus.
Le public n'est pas là.
Ça n'a pas marché.
Ensuite, Robbie Krieger et Ray Manzarek vont continuer l'aventure en reformant un groupe qui va porter différents noms. Je crois que le dernier en date, c'est Riders on the Storm.
Ouais. Parce qu'ils n'ont même plus le droit de s'appeler The Doors.
Voilà, ils n'ont plus le droit parce que les ayants de droit de Jim Morrison et surtout le gardien du temple, John Densmore,
le batteur
voilà. ont refusé que le groupe continue à s'appeler The Doors, tout comme Densmore a refusé ce qu'on dit tout à l'heure, Apple et Cadillac utilisent une chanson des Doors dans leur publicité.
Et ils ont même commis le sacrilège, Manzarek, parce que c'est un sacrilège, hein, Manzarek et Krieger, de faire appel à un autre chanteur. Dans les années 2000, ils s'appelaient les Doors of the 21st Century. Ils ont fait appel à Ian Astbury du groupe The Cult. Donc voilà, ça n'a pas rencontré l'adhésion du public là non plus. Hein. C'était un peu vain comme effort.
Stewart Copeland, l'ancienne ouais. police, voilà. original.
Oui, avoir la police dans les Doors, voilà. c'est toujours bien.
C'est toujours bien.
mais qui est donné à l'histoire.
En revanche, pour revenir sur les ventes, c'est vrai que les Doors, ça marche toujours aussi bien, j'allais dire. Mais c'est aussi par vague, dès la fin des années 70, déjà le simple fait de l'utiliser The End dans Apocalypse Now, ça avait fait remonter les ventes. Il y avait des poèmes donc, enregistrés par Jim Morrison qui avaient été mis en musique par les membres survivants. Donc voilà, c'était ressorti, ça avait fait revendre. Il y a eu le film,
Oliver Stone, The Doors.
Voilà, qui a marqué une nouvelle génération d'adolescents qui a découvert ça. Et à l'adolescence, c'est bien de découvrir les Doors généralement.
C'est plus sympa que d'autres groupes.
Bon, on va peut-être faire un petit tour d'horizon de ce qu'il faut avoir quand on est fan des Doors.
Alors, tout sauf The Soft Parade, c'est mon conseil.
Voilà, tous les albums. Donc, si on est un fan ultime, il y en a 6. Si on écoute Fabien, il n'y en a que 5.
Il n'y en a que 5.
Moi, je suis un peu comme lui d'ailleurs. Il y a quelques best-of qui sont sortis aussi. Il y a deux films marquants qui sont dans The Doors, le film d'Oliver Stone. Qui est inspiré d'une biographie du groupe et de Jim Morrison qui s'appelle
Bonne question.
Personne ne sortira vivant d'ici.
Oui.
Voilà, qui est sorti à la fin des années 70. Il y a aussi un film qui vient de sortir en DVD qui s'appelle When You're Strange. Un film de Tom DiCillo avec beaucoup d'archives, d'interviews, de vidéos et de musique.
Avec Johnny Depp en voix off.
Avec Johnny Depp en voix off, exactement.
Très bon film, très bon documentaire.
Très bon.
Très très bon. Et puis, on vous passe de nombreux bouquins divers et variés qui sont sortis. Et notamment un dont Fabien nous a lu plusieurs extraits aujourd'hui, qui est une véritable somme. Qui s'appelle sobrement Écrit de Jim Morrison.
Il y a près de 1200 pages.
Exactement, près de 1000. Alors, par contre, ce n'est pas toujours très accessible.
Non, parce qu'il n'y a que quelques centaines de pages pour les chansons. Et déjà, ce n'est pas très accessible quand on les lit en français et en anglais, encore moins. Mais il y a aussi tous les poèmes, les nouvelles créatures, ce genre de choses. Parce qu'il a fait aussi des recueils de poèmes.
Et par contre, c'est vrai que pour les amateurs et de poésie et de Jim Morrison, c'est une très, très, très belle pièce. Voilà.
Ok, merci beaucoup, Luc.
Bah, merci à toi.
Tu peux nous dire merci.
Merci à vous.
Et merci Fabien.
Merci.
On va rester dans les chanteurs charismatiques pour la semaine prochaine, chanteurs morts également. On va écouter un extrait du groupe, pas la semaine prochaine, le mois prochain.
Nous partirons, nous irons au Nirvana.
Nous irons au Nirvana. Merci de cet indice, Luc. Allez, ciao, ciao.
Ciao.
A cracker, think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself, want some help. Please myself, got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Only wants a cracker. She would like some food. She asked me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me, have a seat. Let me clap dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself.